Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Une nouvelle aide de 400 millions d'euros pour soutenir le secteur du sport, professionnel et amateur, paralysé par la crise sanitaire. Nous les détaillerons dans un instant avec Jérôme Val. Alors que les violences conjugales sont reparties à la hausse avec le reconfinement, l'association gérant la ligne téléphonique 3919 s'inquiète d'une mise en concurrence des associations aidant les femmes en danger. Explication dans le journal d'Anne Fauquemberg. La proposition de loi sur la sécurité globale est-elle liberticide? Un nouveau rassemblement a lieu derrière l'Assemblée nationale pour la dénoncer, mais les défenseurs du texte s'efforcent de déminer les critiques au sujet de l'article 24. À 2 mois de la fin de son mandat, Donald Trump reste offensif. D'après le New York Times, le président américain a envisagé la semaine dernière d'attaquer le principal site nucléaire d'Iran. Ses conseillers l'en auraient finalement dissuadé. Précision de Sébastien Paour. Malgré l'apparente décroissance de l'épidémie de Covid-19 en France, il n'est pas encore question de rouvrir les commerces ni les salles de sport. Le virus se circule encore trop activement pour que l'exécutif en prenne le risque. En revanche, il veut montrer qu'il a entendu l'appel au secours des sportifs, amateurs comme professionnels. Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui avec des acteurs du monde du sport en visioconférence et le chef de l'État a promis de nouvelles aides pour un budget de 400 millions d'euros, Jérôme Val.
Oui, c'est une éclaircie pour le monde amateur. Les mineurs pourront revenir sur les pelouses ou dans les salles dès le 1er décembre ou au plus tard à la mi-décembre si le recul de l'épidémie se confirme. Une chose est sûre, ce retour dans les clubs se fera avec des règles sanitaires drastiques pour les activités en intérieur comme le basket ou le judo. Les règles qui doivent encore être définies. Une mission confiée à Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu. Des propositions seront très vite soumises au Conseil de défense. Pour les clubs professionnels, en revanche, les nouvelles ne sont pas réjouissantes, mais au moins ils sont fixés. Il n'y aura pas de spectateurs dans les stades ou dans les gymnases avant 2021. Le retour du public n'est pas envisageable en décembre, a assuré tout à l'heure Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui fixe une nouvelle règle réclamée par certains dirigeants de clubs, notamment en football ou en rugby. Il n'y aura plus de jauge fixe, vous savez la fameuse barre des 5000 ou 1000 spectateurs, quelle que soit la taille de la salle ou du stade. Mais ce sera en fonction de la capacité. Imaginons un taux de 10%, bien au Stade de France, on pourrait avoir jusqu'à 8000 personnes. Alors pour compenser cette perte de billetterie qui se prolonge, les clubs vont bénéficier d'un fonds de compensation de 110 millions d'euros avec l'accord de la Commission européenne, fait savoir l'Élysée. Une très grande partie de cette enveloppe ira aux clubs professionnels dont beaucoup dépendent de ces recettes de billetterie.
Jérôme Val du service des sports de Radio France. En Rhône-Alpes, région la plus touchée de France, Laurent Wauquiez a annoncé hier une campagne massive de tests Covid gratuits pour les 8 millions d'habitants de la région. Ni le directeur de l'Agence régionale de santé, ni le préfet n'ont été informés ni mis au courant, répond aujourd'hui le ministre de la Santé. Ce qui est important, déclare Olivier Véran, ce n'est pas de tester les gens, c'est d'être sûr qu'une fois testés, on est capable de les mettre à l'abri pour éviter les contaminations. Signalons tout de même cette innovation en matière de dépistage. Une expérimentation vient d'être lancée dans la région italienne de Vénétie pour faire des tests soi-même et avoir le résultat en quelques minutes chez soi. La correspondance à Rome de Bruce de Galzin.
La Vénétie a déjà été la première région à expérimenter le test rapide en Italie. Cette fois-ci, c'est rapide, cela pourra s'acheter en pharmacie entre 3 et 5 euros et c'est surtout un test à faire chez soi. Alors comment ça marche? Le président de la région Vénétie, Luca Zaia, a ouvert le kit devant caméras et micros et fait une démonstration.
On tourne l'écouvillon 5 fois dans chaque narine, on ouvre le tube à essai où il y a déjà le réactif, on y met l'écouvillon en pinçant un peu le tube, puis on jette l'écouvillon, on referme le tube à essai, on l'ouvre par le haut au niveau du doseur, on met 4 gouttes sur la bandelette, et voilà, c'est déjà en train d'apparaître.
Et si 2 lignes apparaissent, vous êtes positif, une seule, vous êtes négatif. Le test dure à peine 5 minutes, il est déjà probant, selon le professeur Rigoli, qui a mis en place le premier test rapide. Sur 3486 personnes testées en double, avec son test et un test moléculaire, il a laissé passer 2 positifs, tous 2 à très faible charge, dit-il. Mais il faudra encore attendre 1 mois au minimum avant une éventuelle généralisation, car une expérimentation dans plusieurs hôpitaux vient de débuter et l'Institut supérieur de la santé devra donner ensuite son aval. Auquel cas, ce test pourrait devenir une sorte de laissez-passer pour aller au restaurant, dans les magasins, les hôtels en toute sécurité.
Bruce de Galzin, on revient en France où les députés viennent de valider en première lecture le projet de loi de finances pour l'année 2021. Un budget profondément écologique selon la ministre de l'Environnement puisque 22 milliards sont consacrés à l'écologie dans les 100 milliards du plan de relance. Pour les associations écologistes, au contraire, c'est une occasion ratée. D'après elles, les propositions faites par la Convention citoyenne pour le climat n'ont pas été assez prises en compte. Par exemple, l'écotaxe sur le transport aérien ou l'interdiction des publicités dites climaticides. Écoutez Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace pour le climat.
On refuse toutes les mesures de la Convention au prétexte de la crise économique. Mais ce faisant, on nourrit une crise qui est bien plus grave encore, qui est celle du changement climatique. Toutes les mesures d'ordre budgétaire et fiscal de la Convention citoyenne pour le climat ont été soit purement et simplement balayées par le gouvernement, soit vidées de leur contenu. C'est un peu comme si elles avaient été changées en traitement placebo. C'est par exemple le cas avec le malus poids, qui ne concernera que 2% des véhicules mis à la vente en France, au lieu des 25% qui avaient été demandés par la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est beaucoup plus un budget de combine qu'un budget de combat. Et enfin, on nous parle d'une loi effectivement dédiée à la Convention citoyenne pour le climat, mais on nous parle surtout d'un calendrier extrêmement glissant qui serait reporté à l'année prochaine, voire à la fin de l'année prochaine, alors que tout ça devait être mis en œuvre à la rentrée. Pourquoi ne pas les prendre en compte dès ce projet de loi de finances? C'est d'autant plus urgent que la crise climatique accélère et que la France accumule quant à elle des retards. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Ça fait un an que la Convention citoyenne a planché sur ces mesures climatiques. Elle a dépossédé, ce faisant, le ministère de l'écologie de son mandat. Donc on a en quelque sorte suspendu l'action climatique pendant un an. Et là, on nous explique qu'il va falloir encore attendre indéfiniment avant qu'on ait une reprise, un début de semblant d'action climatique en France.
Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace pour le climat, répondait à Marie Viennot. 250 millions d'euros du plan de relance sont consacrés à l'inclusion numérique, une somme inédite alors que 13 millions de personnes sont éloignées du numérique en France. Jacqueline Gouraud et Cédric Haut ont précisé ce matin à quoi servirait ce budget. L'essentiel sera consacré à la formation et au recrutement de conseillers numériques pour accompagner les personnes dans les lieux de médiation ou les services publics. Mais si cette mesure est importante, elle ne touchera probablement pas les personnes dans la plus grande précarité. Et c'est ce que regrette Florent Guéguin, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Nous, on touche le public le plus exclu. Et pour aller vite, le public le plus exclu n'est pas concerné par ces mesures. Ça ne veut pas dire que ces mesures, elles ne sont pas utiles, notamment pour une partie de la population qui est un peu au-dessus du public qu'on suit, nous. Mais le public des personnes mal logées, à très faibles ressources, ils vont pas dans ces lieux. Toutes ces personnes cumulent une situation de précarité sociale et de précarité numérique. Et il est clair que cette précarité numérique, elle est de plus en plus durement ressentie du fait de la numérisation, de toutes les démarches administratives. Et ce processus, il est accentué par le confinement ou le semi-confinement. Et pour nous, l'enjeu, c'est de pouvoir équiper toutes les structures d'hébergement et les logements d'insertion en une connexion et en proposant du matériel, soit gratuit, soit à des tarifs accessibles. La majorité des structures d'hébergement ne sont pas en capacité aujourd'hui de proposer, je dirais, un accès au numérique à toutes les personnes qui sont hébergées ou logées. Et ça vaut aussi pour les personnes à la rue.
Florent Guéguin de la Fédération des acteurs de la solidarité avec Catherine Pétillon. En novembre, l'activité économique de la France est de 13% inférieure à son niveau d'avant-crise, selon l'INSEE. Les pertes liées au reconfinement semblent moindres qu'en avril, quand l'activité avait reculé de 30%. Et à noter également, les consommateurs se sont adaptés. Les ventes en ligne semblent plus soutenues et dynamiques qu'en mars-avril. Et contrairement à la mi-mars, il n'y a pas eu autant de ruées sur le carburant ou l'alimentaire à l'annonce du reconfinement. Début d'examen ce soir de la loi de sécurité globale à l'Assemblée, un texte controversé. Ce qui retient l'attention, c'est l'article 24 de cette proposition de loi qui prévoit de pénaliser la diffusion d'images permettant l'identification d'un policier ou d'un gendarme en opération lorsqu'elle a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Pour les opposants au texte, les journalistes et citoyens vont s'interdire de filmer les policiers alors que c'est ce qui permet le plus efficacement de dénoncer les violences policières. Du lieu. Vous vous trouvez derrière l'Assemblée nationale où est justement organisé un rassemblement pour dénoncer ce texte.
Oui, alors les gens continuent toujours d'arriver sur cette place Édouard Herriot, juste derrière le Palais Bourbon. Plusieurs centaines de personnes, voire milliers désormais sont là, mais c'est très hétéroclite. D'un côté, on a les syndicats de journalistes, la Ligue des droits de l'homme et les associations de professionnels à l'origine de ce rassemblement. Ari Halimi, le président de la Ligue des droits de l'homme, souligne la mise en abîme des journalistes présents pour filmer des journalistes qui se battent pour la liberté d'expression. Juste à côté, une pancarte portée par une avocate en robe demande « Police, qui nous protège quand vous dérapez ?» La seule liberté d'expression. Pour beaucoup ici, cette proposition de loi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, même si un syndicaliste me disait regretter tout à l'heure que les journalistes se retrouvent plus ou moins entre eux, sans un soutien plus large de la population, même si depuis, ça commence à arriver. Et puis de l'autre côté de la place, eh bien, plusieurs centaines de gilets jaunes sont là, pas forcément chaleureux d'ailleurs avec les journalistes. Il y a eu quelques tensions au début, au moment des prises de parole. Des fumigènes ont été allumés avec des chants de gilets jaunes. Des huées ont aussi été entendues parmi les gilets jaunes au moment où les consignes sanitaires ont été rappelées. Des banderoles soutenant les thèses complotistes du documentaire dit documentaire Hold Up ont été accrochées. Des prospectus contre le vaccin Covid et contre, je cite, les puces et les carnets de vaccination sous la peau ont été distribués. Pas de doute donc que beaucoup ici ont vu le film complotiste. Les prises de parole sont toujours en cours. Vous l'entendez derrière moi, l'ambiance est toujours plutôt calme mais quand même tendue. Le tout encadré par un fort dispositif policier.
Merci Laura Dulieu, en direct donc derrière l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de Georges Thau. J'indique que des rassemblements sont également prévus ce soir dans 8 autres villes, notamment Lyon, Toulouse et Marseille. Et puis à l'Assemblée, la séance des questions au gouvernement a donné l'occasion d'aborder ce sujet sensible. Le ton est d'ailleurs monté. La députée de Paris, Georges Paul-Anvelin, a demandé au ministre de l'Intérieur de retirer cet article 24 et voici la réponse du ministre Gérald Darmanin.
L'article 24 n'est absolument pas ce que vous dites. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer ? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser ? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer l'intervention de police ? La réponse est oui. Pourra-t-il le dénoncer au procureur de la République ? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières ? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers ? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés, madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux que l'article 24 soit adopté.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le chef de file des députés LREM, Christophe Castaner, a lui aussi dénoncé des caricatures concernant cette proposition de loi sur la sécurité globale. Le ton était plus calme et consensuel en début de séance. Députés et ministres ont observé ensemble une minute de silence en hommage aux 7 militaires morts jeudi dernier dans un accident d'hélicoptère dans le Sinaï égyptien. Tous étaient membres de la force multinationale chargée de surveiller la paix entre Israël et l'Égypte. Et l'un d'eux était un officier français. Depuis le reconfinement, le 30 octobre, la plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes a enregistré une hausse de 15% des appels de victimes. Au moment où sont communiqués ces chiffres, l'association qui gère la ligne téléphonique 3919 fait part de sa colère. Elle s'insurge contre la volonté du gouvernement de la soumettre à une procédure de mise en concurrence. Procédure pour désigner la structure qui doit continuer à organiser ce service. Au cœur du sujet, Anne Fauquemberg, il y a le passage de cette ligne d'écoute en 24 heures sur 24, alors qu'aujourd'hui, elle n'est ouverte que de 9h à 22h.
Oui, et ironie du sort, c'est la responsable actuelle de cette ligne d'écoute développée par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, c'est Françoise Brier donc, qui a demandé ce passage en 24 heures sur 24 après le Grenelle des violences faites aux femmes, un élargissement d'autant plus nécessaire qu'au premier semestre 2020, le 3919 a reçu 192% d'appels en plus qu'en 2019, explique-t-elle. Mais la décision du gouvernement d'ouvrir le service à la concurrence alors qu'il fonctionnait sur subvention depuis près de 30 ans, l'ébranle. Françoise Brier craint que l'État n'impose des normes et des logiques de rendement alors que l'écosystème actuel qui repose sur 30 écoutantes et une petite centaine d'associations a produit un savoir-faire reconnu.
Le 3919, il est quelque part le pilier aussi de la FNSF et des associations partenaires avec tout autour des services qui sont adossés à ce numéro, des associations qui sont adossées à ce numéro. Donc si effectivement le 3919 devait être obtenu par une autre structure, voilà, que va-t-il se passer derrière pour l'ensemble de cet écosystème qui fonctionne très bien ?
Du côté de chez Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, on assume cette évolution. C'est le destin d'autres numéros arrivés à maturité, explique-t-on au cabinet, comme le 116-000 pour les enfants disparus. Mais surtout, avec cet élargissement de services à venir et à partir du moment où l'État a décidé, je cite, de nationaliser ce service, il y a des risques de recours juridiques qui font craindre au ministère une interruption de cette précieuse ligne d'écoute.
Merci Anne Fauquemberg. L'assassinat de l'enseignant Samuel Paty et la polémique autour de la liberté de publication des caricatures de Mahomet ont renforcé le risque d'attaques visant la France ou des Français de par le monde. C'est ce que constate le Quai d'Orsay. En première ligne, les représentations françaises à l'étranger qui ont dû renforcer leurs mesures de sécurité. Eric Biegala.
Des mesures pour renforcer la sécurité des emprises diplomatiques françaises, ambassades, consulats ou autres, ont été prises sur 10 postes différents ces dernières semaines, suite aux tensions autour des caricatures. Mais, souligne-t-on du côté du Quai d'Orsay, les menaces contre la France sont dites ubiquitaires. Potentiellement, elles peuvent viser tout le monde et partout dans le monde. C'est particulièrement le cas des actions les plus violentes de type terroriste. Un pays considéré comme ayant un bas niveau de risque terroriste peut parfaitement être la cible d'un attentat, souligne-t-on encore de sources diplomatiques, et de rappeler l'attaque de Vienne au début du mois où un sympathisant de l'État islamique avait ouvert le feu en pleine rue faisant 4 morts. Les groupes islamistes les plus violents, type Daesh ou Al-Qaïda, demeurent actifs et des opérations de repérage par leurs militants de cibles françaises, en prise diplomatique par exemple, ont encore été signalées ces dernières semaines également. En revanche, les actions visant les intérêts français, comme les appels au boycott de produits français, semblent être sur la décrue, remarque-t-on encore au Quai d'Orsay. Quant aux manifestations de rue, elles ont quasiment disparu. Au Pakistan, le parti islamiste Tariq El-Abaik a mis un terme ce mardi à 48 heures de manifestations contre la France, après avoir obtenu la libération de ses militants arrêtés dans des affrontements avec la police ces derniers jours.
Eric Biegala, nous allons maintenant au Royaume-Uni, où même confiné, Boris Johnson suscite la polémique. Lors d'une réunion à distance avec une soixantaine de députés du nord du Royaume, le Premier ministre britannique a qualifié la décentralisation écossaise de désastre. Tony Blair avait élargi les pouvoirs du Parlement d'Écosse en 1997, après un référendum. Cette assemblée est notamment compétente sur les sujets de santé ou d'éducation. Et là encore, Richard Place, Boris Johnson n'y va pas de main morte, puisqu'il affirme qu'il s'agit là de la plus grosse erreur de Tony Blair.
Le mot « désastre » a bien été prononcé, mais il ne parlait pas de la décentralisation elle-même, c'est l'usage qu'en font les nationalistes, les séparatistes, qu'il qualifie ainsi. Voilà comment la majorité tente aujourd'hui de corriger le tir. Parce qu'évidemment, Nicola Sturgeon, première ministre et leader du parti nationaliste, le SNP, majoritaire à l'Assemblée d'Écosse, n'a pas raté l'occasion. Elle a répondu par un tweet cinglant. Ça vaut la peine de noter ces commentaires pour la prochaine fois où les conservateurs affirmeront qu'ils ne sont pas une menace pour le Parlement écossais. La seule façon de le renforcer, c'est l'indépendance. Et voilà bien le cœur du sujet. Boris Johnson constate les sondages qui vont tous dans le même sens depuis plusieurs mois. L'opinion écossaise bascule vers l'indépendance alors qu'elle avait largement voté contre il y a 6 ans. Entre-temps, il y a eu le Brexit et la gestion des conservateurs, historiquement peu appréciée au pays des Highlands. Avant même de songer à un nouveau référendum, le SNP se prépare à des élections l'année prochaine qu'il veut remporter de manière écrasante pour remettre la pression sur Londres afin de sortir du Royaume-Uni.
Lui non plus n'a peur de rien. À 2 mois de la fin de son mandat, le président américain Donald Trump a envisagé de se lancer dans un bras de fer avec l'Iran. C'est le New York Times qui raconte. Le journal relate une réunion de jeudi dernier, Sébastien Paour.
Le rendez-vous se passe dans le bureau ovale. Il y a là notamment le vice-président Pence, le secrétaire d'État Pompeo, le secrétaire à la défense par intérim depuis que Mark Esper a été limogé la semaine dernière, et le chef d'état-major des armées, le général Miley. Le président américain, raconte le New York Times, leur demande quelles sont les options sur la table pour prendre des mesures contre le principal site nucléaire iranien. La veille, les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence de l'énergie atomique, expliquaient dans un rapport qu'ils constataient une augmentation significative du stock d'uranium dans le pays. Trump dit à ses conseillers qu'il veut agir dans les prochaines semaines. C'est le site de Natanz qui aurait pu être visé, d'après le quotidien. Le stock d'uranium y est 12 fois plus important que ce qui est autorisé par l'accord nucléaire que Trump a abandonné en 2018. Son entourage l'a dissuadé de frapper l'Iran en mettant en avant notamment le risque d'une escalade militaire. Ce qui est sûr, c'est qu'une telle intervention contre Téhéran compliquerait la tâche de son successeur, dont il ne reconnaît toujours pas la défaite. On sait que Biden veut relancer l'accord de 2015 quand il sera en poste. Trump, qui veut aussi se distinguer de son prédécesseur, successeur Barack Obama. Il pourrait ordonner le retrait de milliers de soldats américains en Afghanistan, en Irak et en Somalie avant de quitter ses fonctions peut-être dès cette semaine.
Sébastien Paour à New York pour France Culture. Le temps prévu demain mercredi, du brouillard au petit matin, du soleil ensuite. Mais la pluie arrivera par la Bretagne et s'étendra l'après-midi au Pays de Loire, à la Normandie et jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France. Température minimale 2 à 10 degrés, de la douceur l'après-midi avec 11 à 18 au nord, 15 à 25 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.